Après l'heure, c'est plus l'heure. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On va laisser tout le monde s'installer tranquillement pour ce dernier conseil municipal avant l'été. C'est aujourd'hui le premier jour de l'été. Premier jour de l'été. Le temps que tout le monde s'installe. Allez, je vais proposer à Chantal Plancheneau, si elle veut bien être notre secrétaire de séance, de faire l'appel. Merci beaucoup.
Monsieur Charles Daillot, Monsieur Hervé Bayard, absent, donne le pouvoir à Monsieur Gilles Chauvin, Madame Marie-Christine Bourdieu, Monsieur Farid Eba, Madame Eliane D'Arteron, Madame Catherine Piquet, Monsieur Gilles Chauvin, Madame Geneviève Darieussecq, Monsieur Jean-Marie Badby, Madame Janine Lamaison, Monsieur Bruno Ruffia, Madame Pascale Horry, absente, Monsieur Philippe Hérault, Madame Marina Bancon, Madame Marie-Christine Arambat, Monsieur Pierre Merlet-Bonan, Monsieur Jean-Jacques Gourdon, Madame Nathalie Gasse, Madame Marie-Pierre Gazot, Monsieur Hicham Lamsika, Madame Claudie Breck, Monsieur Philippe Demarix, Monsieur Christophe Ourcade, Monsieur Mathieu Hara, absent, donne le pouvoir à Madame Geneviève Darieussecq, Monsieur Mathis Capdeville, absent, donne le pouvoir à Monsieur Jean-Marie Badby, Madame Delphine Leblanc, Madame Nathalie Garcia, Monsieur Jean-Baptiste Savary, absent, donne le pouvoir à Monsieur Frédéric Dutin, Madame Céline Piot, Monsieur Alain Bachet, Monsieur Jean-Noël Capdeville, Monsieur Frédéric Dutin, présent. Madame Françoise de Latrabe, présent. Monsieur Bruno Mendé, présent.
Merci Chantal Plancheneau. Donc plusieurs délibérations, une quinzaine de délibérations. Et pour commencer, donc vous présentez le procès-verbal de la séance du 23 mai et le compte-rendu des décisions. Est-ce que sur l'un ou sur l'autre, vous avez des questions ou des souhaits de modification? Pas de modification sur le procès-verbal, ni sur le compte-rendu des décisions. Pas de demande d'explication. Alors, allez-y.
J'en ai une, monsieur le maire. Merci. La dernière décision qui concerne l'aménagement de l'îlot Lolom et le marché public à procédure adaptée, c'est ça?
Oui, c'est la décision la dernière. 133.
Voilà, une procédure adaptée qui a été lancée. C'est pour des travaux ou c'est pour quel type de marché, pour quel objet, s'il vous plaît?
Il s'agit d'espaces verts.
Ou des fournitures?
Ce sont les travaux espaces verts pour l'aménagement de l'îlot Lolom.
D'accord. Non, parce que vous le savez, dans les marchés publics à procédure adaptée, il y a une part, il y a un seuil pour les marchés publics de travaux et il y a un seuil pour les marchés publics de fournitures. Donc c'est considéré comme des travaux, pas comme des fournitures.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur le PV ou les décisions? Monsieur
Oui, sur les décisions, une demande d'explication, parce qu'on est, c'est vrai que le soleil arrive et on a envie de se désaltérer. C'est sur les gobelets réutilisables. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques informations sur... On n'a pas tout... tout à fait saisi voilà, la raison, le but et pourquoi. Voilà. Pour qui, pourquoi ?
Bah c'est ni plus ni moins ce qui était les années précédentes, c'est-à-dire permettre aux cafetiers d'utiliser les gobelets réutilisables. Et on travaille, je crois, sans trahir de secret, avec EcoCup, il me semble.
Non,
que c'est ça.
C'est plus EcoCup.
Madame, alors, Monsieur Mendej, et après Madame Piau. Ah oui, c'est très bien. Allez-y.
Oui, bonsoir. Voilà, moi j'avais une question sur la première décision qui concerne les transferts de crédit. J'ai pas trop compris. Normalement, autre charge de gestion courante, il y avait formation. Et vous transférez 5 000 euros, vous enlevez 5 000 euros de la formation pour les mettre à fêtes et cérémonies. C'est quelle fête et quelle cérémonie, s'il vous plaît.
Christophe.
Oui. J'étais pas à la commission, excusez-moi. J'ai pas pu y aller.
Je crois que ça concerne de la formation relative aux salariés de la régie des fêtes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le PV ou sur les décisions ? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision ? Alors, on considère que le PV, vous en avez pris connaissance, qu'il est adopté, et on considère que les décisions vous ont été présentées. Et je vous propose de passer à la première délibération. Je vais passer la parole à Philippe de Marnix pour notre adhésion au Pass Culture. Philippe.
Merci, Monsieur le maire. Donc, la ville de Mont-de-Marsan, grâce notamment à son musée d'Espiovérique, met en place une politique d'animation éducative, artistique et culturelle en direction des publics scolaires et jeunes publics hors temps scolaire. Pour communiquer sur cette offre gratuite ou payante, la collectivité souhaite adhérer au dispositif Pass Culture, mis en place par le ministère de la Culture et porté par la SAS Pass Culture depuis 2019. Destiné à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes, il met aussi à disposition des acteurs culturels une plateforme professionnelle de mise en valeur des actions et propositions en lien avec ce public. Les objectifs du Pass Culture sont d'améliorer l'accès à la culture pour les jeunes, de susciter l'envie et permettre d'accéder à une vie culturelle de proximité en répondant aux pratiques sociales et de consommation des jeunes. Ce dispositif comprend deux volets. Le premier, c'est un volet individuel sous la forme d'une application mobile gratuite géolocalisée destiné à favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes de 15 à 18 ans. Chaque jeune inscrit sur la plateforme se voit doté d'une somme totale de 380 euros à utiliser pour l'achat de biens culturels, de visites guidées, d'ateliers, de spectacles, de rencontres avec un artiste ou d'ouvrages de la boutique proposée par le musée d'Espiovlérique. Et le second, c'est un volet collectif qui permet aux établissements scolaires de financer des activités d'éducation artistique et culturelle aux élèves de la 6e à la terminale via un crédit attribué annuellement à l'établissement scolaire. Au sein de la collectivité, actuellement, aucun établissement culturel ne bénéficie de cette adhésion. Au niveau de l'agglomération, c'est le cas de la médiathèque, mais dans la collectivité de Mont-de-Marsan, il n'y en a pas pour l'instant. De cette adhésion qui constitue un réel outil de promotion en donnant de la visibilité à l'offre culturelle du musée d'Espiovlérique. Afin d'intégrer l'offre du musée à l'offre du Pass Culture, il est proposé d'autoriser la signature d'une convention de partenariat avec la SAS Pass Culture. C'est, c'est la convention que nous vous demandons d'approuver. Je vous remercie.
Merci Philippe. Avez-vous des questions sur ce point-là ou des remarques particulières ? S'il n'y a pas de questions, je vous soumets au vote. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Et je passe la parole à Chantal Blancheneau pour parler du 80e anniversaire et de ce qu'on prévoit sur cet événement.
Merci, Monsieur le maire. Donc, je vous propose cette délibération qui a pour objet l'approbation du projet et de son plan de financement pour le 80e anniversaire de la libération de la ville. 2024 est une année importante sur le plan mémoriel, avec le 80e anniversaire de la libération, marqué pour la ville de Mont-de-Marsan par les combats du pont de Batz, que nous commémorons chaque année le 21 août. Aussi, pour marquer cet anniversaire, la ville de Mont-de-Marsan a décidé d'organiser plusieurs événements. Alors, premièrement, un circuit mémoriel occupation-libération de Mont-de-Marsan, aménagé avec 12 grands panneaux représentant chacun une ou plusieurs photographies et apposé à l'endroit où elle a été prise. Ainsi qu'une exposition 21 août 1944 au Hall de la Madeleine, axée sur les combats du pont de Batz. Le but de ces manifestations est de faire connaître l'histoire de Mont-de-Marsan durant la période de l'occupation puis de la libération, en la rendant accessible au plus grand nombre. C'est aussi de mettre à portée du grand public la connaissance historique de la période de 1940-1944 à Mont-de-Marsan, en diffusant des photos et documents jusqu'à présent confidentiels ou peu connus. Le but est également de rendre ces informations facilement accessibles aux établissements scolaires qui pourront s'approprier les parcours mémoriels dans la ville durant toute l'année scolaire 2024-2025. C'est également l'occasion de rendre hommage aux résistants et anciens combattants 39-45 Montois. Nous avons obtenu la labellisation pour ce projet par la mission nationale du 80e anniversaire de la Libération. Donc le coût prévisionnel de ce projet s'élève à 4 138 € TTC. Il comprend la confection des 12 panneaux et les charges de personnel. Nous demandons une subvention de l'État à hauteur de 30%, soit 1 241 €. La ville de Mont-de-Marsan prenant à sa charge 70% du coût prévisionnel, soit 2 896 €. Je demande de bien vouloir approuver ce projet ainsi que son plan de financement et de nous autoriser à solliciter cette subvention. Je vous remercie.
Merci. Avant de passer la parole ou soumettre au vote, juste dire le... Voilà, on a voulu marquer le coup de ce 80e anniversaire et le faire vraiment pour amener le grand public et les scolaires notamment à pouvoir voir ces photos qui seront 2 mètres sur 1. Donc on va avoir un parcours assez spectaculaire. Je pense qu'on va avoir des photos un peu glaçantes aussi. Il y a des photos inédites et on souhaitait que ce soit vraiment positionné à l'endroit où la photo a été prise pour que nous-mêmes ou les plus jeunes générations puissent vraiment visualiser quelque chose de concret. Et je remercie l'ensemble des partenaires associatifs et autour de Chantal qui ont coordonné cette opération. Je pense qu'on aura quelque chose de bien. Ce sera une réussite pleine si on arrive à... Il faut qu'on soit tous mobilisés là-dessus, mais on va faire ce qu'il faut, qu'on arrive à amener cette exposition dans l'esprit des enseignants et des scolaires. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu en amont pour pouvoir se faire connaître au niveau du DAZN, des conseillers pédagogiques, et que ça puisse s'inscrire notamment dans des sessions pédagogiques sur certaines tranches d'âge, de façon à ce qu'on ait des scolaires qui puissent parcourir cette expo. Voilà. Merci Chantal, en tout cas, du travail qui est réalisé. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Madame Dariussec?
Oui, merci Monsieur le maire. Par les fonctions qui ont été les miennes, je mesure l'importance de ces politiques, bien sûr, et je mesure le travail qui est fait. Je veux remercier Chantal Planchenot parce que voilà, elle fait, je trouve, autour de la mémoire et de tous ces sujets-là, un très bon travail dans notre ville avec les associations. Et il est important qu'on participe à ce 80e anniversaire qui est essentiel, il me semble, pour notre pays. Important aussi que l'on puisse s'inscrire dans la politique nationale, justement, mémorielle, puisqu'il y a eu la création d'un GIP, un peu comme la mission du centenaire, mais pour cette année mémorielle de libération de la France. Et c'est très important que l'on puisse s'inscrire là-dedans. Alors, je pense qu'il doit y avoir effectivement des subventions au niveau de cette direction de la mémoire au niveau du ministère des Armées et peut-être aussi au niveau de cette instance qui a été mise en œuvre. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre avec attention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir mis en œuvre tout cela.
Y a-t-il d'autres prises de parole? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Merci beaucoup. Je passe la parole à Nathalie Gasse pour l'école du Carbouet.
Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération pour concerne donc l'école du Carboué qui a été mise à disposition de Mont-de-Marsan Agglomération dans le cadre du transfert de compétences du scolaire. Et par délibération du 6 juillet 2021, le Conseil communautaire de Mont-de-Marsan Agglomération a prononcé la désaffectation des bâtiments. Donc l'école du Carboué n'étant plus utilisée dans le cadre de la compétence scolaire, il y a lieu de constater la désaffection de ces bâtiments et des biens affectés à l'école et de mettre à jour le procès verbal de mise à disposition qui a été signé le 1er juillet 2015. Il conviendra par conséquent de procéder à une actualisation des charges transférées pour tenir compte de cette évolution. Donc, il vous est demandé de prendre acte de la désaffectation des bâtiments de l'école du Carboué.
Merci. Avez-vous des remarques, des questions des... Alors, je vais poser la parole à M. Dutin et ensuite à M. Mindet.
Oui. Donc, qui dit désaffectation dit affectation. Quelle affectation? Et après, je compléterai peut-être ma question.
Alors, je l'ai déjà signalé. Donc, l'école du Carboué, une étude est en cours actuellement pour y faire la maison de, une maison des associations.
Oui, donc une maison des associations qui regrouperait toutes les associations ou qui reprendrait uniquement les associations qui se trouvaient à Saint-Jean-d'Aute.
Alors, cette maison des associations reprendrait les associations qui sont actuellement au niveau de Luc Bernet, donc c'est la maison des associations qui est en face de l'ancien tribunal. Et les associations qui sont en attente de bureaux ou de stockage.
Il y a de la friture sur la ligne. Et donc, pour compléter, c'est la dernière question. Là où étaient donc à Saint-Jean-d'Aute les anciennes associations, j'ai cru comprendre que l'acquéreur n'était plus acquéreur. Où en est-on ? Donc, que va devenir ce bâtiment? Qu'est-ce qui est mis en place de façon à éviter que nous ayons là une verrue pérenne?
Alors, effectivement, on en a parlé au dernier conseil municipal. Donc, Monsieur Ventournou nous a informé de sa décision de se rétracter. Nous en avons parlé à la dernière commission urbanisme-centre-ville. Donc on aura une délibération à passer en ce qui concerne l'abrogation de la délibération initiale. Et en même temps, on veut faire une délibération pour le lancement du nouveau projet, qui n'était pas complètement finalisé, puisque dans cet appel à projet, on veut mettre un peu plus de bornes au projet. Toujours est-il que ce qu'on veut noter, c'est s'il y a désistement du candidat, qu'il y ait un versement d'indemnité à la ville, et ça c'était en cours d'étude entre le service juridique et les notaires. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on avait dit à la commission, les délibérations ne passent pas aujourd'hui.
Parce que nous effectivement, et nous confirmons notre point qu'on a déjà développé ici à l'occasion des débats devant le conseil municipal, nous considérons effectivement que transférer les associations dans un quartier qui est un quartier en périphérie, évidemment, on le sait tous, du centre-ville, n'est pas une bonne idée, ça n'est pas un bon choix, que dans le cadre effectivement du nouveau projet qui serait donc en étude de définition, peut-être qu'il faudrait s'inspirer d'un projet qui existait lors du premier appel, qui prévoyait en quelque sorte une espèce de mixité entre à la fois du logement, mais également le maintien d'un certain nombre d'associations sur les bâtiments ou de façon à ce qu'il y ait un espace qui puisse être dédié à ces associations. Je pense que un projet qui permettrait d'allier ces deux aspects seraient bien plus bénéfiques parce que, certes, les débats ont eu lieu, on ne va pas les rejouer, et puis de toute façon, ça a été voté, mais les associations, même si elles ne sont pas, et leurs adhérents ne sont pas tous les jours sur le site ou sur le bâtiment qui les accueille, bah, à l'occasion effectivement des manifestations, dans le cadre d'une visibilité, dans le cadre effectivement aussi de leur participation à la vie communale, eh bien, nous considérons qu'il était préférable de les maintenir à la toute proximité du centre-ville. Ça n'a pas été votre choix. Voilà.
Si M. Mendé souhaitait s'exprimer.
Oui, moi j'avais une question. Donc cette école avait été donc transférée à l'agglo. Depuis sa fermeture, elle n'avait pas été occupée, si ce n'est que partiellement par le café musique. Ce bâtiment, il a été dégradé, les abords ont été dégradés. Est-ce qu'il est prévu une remise en état de ce bâtiment, cet espace ?
Oui.
C'est ma première question.
Oui, les études qui sont en cours, c'est pour la réhabilitation du bâtiment, l'ancienne école élémentaire, pour la mettre aux normes ERP et aussi d'un point de vue énergétique, qu'elle soit moins énergivore, et par l'installation d'un ascenseur extérieur, comme la rénovation de l'école de l'Argenté, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et les espaces autour aussi vont être réhabilités ? Ça a été partiellement démonté, certains aménagements.
Qu'est-ce que vous appelez les espaces autour ?
Il y avait une aire de jeu, il y avait des choses comme ça.
Pour l'instant, on ne s'est concentré que sur le bâtiment pour accueillir les associations. Okay.
Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ? Allez-y.
Finalement, c'est une chance pour vous que nous n'ayons pas eu la sécurité civile à Mont-de-Marsan, puisqu'il était prévu effectivement que les bâtiments soient occupés par des personnels de la sécurité civile, ce qui aurait posé un problème par rapport à ce que nous évoquons là. Juste, je pose la question parce qu'il me semblait qu'il y avait eu un effet d'annonce avec les Canadairs qui devaient arriver à Mont-de-Marsan. Est-ce que, je crois que Mme Dariussec, hein, s'était répandue dans la presse en la matière, et notamment je crois que le ministre de l'Intérieur avait pris également des engagements. Est-ce que ces appareils doivent toujours arriver ? Est-ce que vous avez des informations en la matière ou est-ce que ça va faire plouf ?
Alors, si vous permettez... Sauf si Geneviève Dariussec souhaite répondre de suite, j'aimerais bien que ce type de questions diverses soit mis à la fin, parce qu'on est en dehors du périmètre, sauf si Geneviève voulait répondre tout de suite.
Très rapidement, ce n'est pas la peine d'attendre la fin de la séance, qui devrait être brève au vu de l'ordre du jour. Bien écoutez, il y a eu une annonce. Je sais qu'en ce moment, ce dossier est en cours d'étude au niveau des ministères concernés, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, mais également le ministère des Armées. Je n'en sais pas plus aujourd'hui de l'évolution du dossier, très simplement parce que bon, vous voyez qu'on est dans une période un peu particulière. Donc non, monsieur Dutin, je n'ai pas d'annonce particulière à faire qui aurait pu... qui aurait pu être influente dans cette période, mais ce n'est pas ça que je cherche, vous le savez bien, et qu'on va se battre pour que les choses se fassent, si elles sont utiles, bien entendu, et si elles ont été déclarées comme des choses importantes pour la sécurité civile, il ne faut pas que ce soit que des effets d'annonce. Mais je sais que les choses sont à l'étude, et ça m'a été confirmé par le ministre de l'Intérieur.
mieux si vous avez des circuits courts avec le ministre de l'Intérieur. Mais moi, ce que j'avais cru comprendre, effectivement, c'est que finalement, les choses étaient pratiquement actées, qu'il ne manquait plus qu'une vie. On voyait presque les avions atterrir sur la base, donc c'est pratiquement acquis que l'annonce se ferait fin août de l'année dernière, parce que nous aurions une visite du ministre de l'Intérieur, justement. Donc, bon, manifestement, cet effet d'annonce, alors, c'était juste un effet d'annonce, puisque aujourd'hui, vous nous indiquez que tout cela est à l'étude. Ben, nous attendrons cette étude.
Madame Ariosek.
Très rapidement, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que les choses vont se faire immédiatement. Vous savez tous, si vous voulez être, responsable, vous savez tous que pour étudier un dossier aussi lourd, il faut du temps. Ce n'était pas juste faire atterrir des avions, c'était faire mettre en place... Le projet était de mettre en place une base fille, donc avec des bâtiments, avec voilà, des choses qu'il faut étudier. Et vous savez bien, enfin, vous devriez savoir que pour porter un projet aussi important, il faut du temps. Il faut du temps d'abord pour en voir la faisabilité, il faut du temps aussi pour en concevoir le fonctionnement. Et bon, tout ça prend du temps, donc le temps qui est là devant nous n'est pas un temps anormal. Il ne s'agit pas juste de faire descendre des avions. Par contre, cet été, il y aura reconduction de l'opération Pélican, je crois qu'elle s'appelle, le Pélicandrome, qui a été mise en œuvre sur la base aérienne et qui est une zone d'avitaillement pour les Canadair et autres avions qui luttent contre le feu. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important et de particulièrement utile immédiatement pour la lutte contre les incendies.
Je trouve que votre réponse consiste uniquement en un contre-feu. L'image est peut-être mal choisie, mais ah, oui, mais ça, des fois il faut un peu rigoler. Donc nous relirons tranquillement vos propos qui avaient été repris dans la presse et chacun pourra se faire effectivement son idée.
Allez, je vous propose de voter ce pourquoi nous étions là, à savoir la délibération numéro 5. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Marie-Christine Bourdieu par rapport au terrain de Canenx.
Merci, monsieur le maire. La ville de Mont-de-Marsan est propriétaire d'un terrain non bâti, avenue de Canenx, en face du complexe funéraire, cadastré AA numéro 031, anciennement Camp du Carré. La société Adim Nouvelle Aquitaine a proposé à la commune d'acquérir une partie de ce foncier pour la réalisation d'un projet de construction d'une usine de production d'hydrogène vert. La réalisation de ce projet permettrait d'accueillir sur la commune de Mont-de-Marsan une usine développant des solutions innovantes de production d'énergie verte, tout en requalifiant une friche désaffectée depuis de nombreuses années. Il est donc proposé au conseil municipal, après avoir constaté la désaffectation de cette parcelle rendue inaccessible au public, de prononcer son déclassement du domaine public communal. La cession fera l'objet d'une délibération ultérieurement. Pour rappel, le projet permettrait la valorisation de l'eau géothermale issue du forage GMM1, valorisation du foncier, valorisation économique. Le projet est donc de baisser la température rejetée de ce puits GMM1 en dessous de 30 degrés. Donc il nous est donc proposé de déclasser, de désaffecter cette parcelle.
Pose de faire celle d'après parce que sont un petit peu liées. Hein. Comme ça, on votera l'une après l'autre.
Afin de mener à bien son projet de construction d'une usine de production d'hydrogène vert, la société Adim Nouvelle Aquitaine a proposé à la commune de Mont-de-Marsan d'acquérir le terrain détaché nouvellement cadastré à Anne 39, mais il ne présente pas une superficie suffisante pour réaliser la réalisation de la construction projetée. Aussi, la ville de Mont-de-Marsan souhaite acquérir une bande de terrain d'une superficie de 4800 m² appartenant à ce jour à Mont-de-Marsan Agglomération afin de l'adjoindre au terrain qu'il est envisagé de céder à la société Adim Nouvelle-Aquitaine et que nous devons déclasser suite à la délibération précédente. Il nous est donc demandé d'approuver l'acquisition auprès de Mont-de-Marsan Agglomération de ce terrain d'une superficie de 4811 m² au prix de 20 583 euros. Donc cette cession permettra la valorisation du foncier actuellement vacant et considéré comme une friche, et le déploiement de procédés industriels novateurs en matière d'énergie renouvelable et valorisation des déchets.
Merci. Donc deux délibérations qui sont liées. Avez-vous des questionnements sur ces délibérations, des points particuliers ? Je vous propose de passer au vote. Donc la première, qui est la numéro 6, qui est la désaffectation. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. La deuxième, qui est la numéro 7, qui est l'acquisition de la petite parcelle à côté. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. On parle du règlement de publicité extérieure. Marie-Christine Bourdieu.
Merci, monsieur le maire. La taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, est une imposition indirecte facultative qui peut être instituée par les communes. Cette taxe frappe les supports publicitaires dans la limite de leur territoire. Il nous faut fixer par délibération les tarifs applicables, et ce avant le 1er juillet, pour l'année 2025. La taxe s'applique à tous les supports publicitaires fixes, exploités, extérieurs et visibles d'une voie publique, classés en trois catégories. Les dispositifs publicitaires et pré-enseignes, affichage non numérique, les dispositifs publicitaires et pré-enseignes, affichage numérique, et enfin les enseignes. Pour Mont-de-Marsan, il est proposé de maintenir l'exonération pour les enseignes dont la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Cela concerne les enseignes du cœur de ville. De majorer le tarif de la taxe au maximum du taux pour les dispositifs publicitaires et pré-enseignes, affichage non numérique et affichage numérique, ainsi que les enseignes. Il nous est donc demandé de maintenir l'exonération totale pour les enseignes inférieures ou égales à 7 mètres carrés et de majorer les tarifs au maximum du taux pour les autres dispositifs. Pour information, en 2023, cette taxe a rapporté 260 000 euros à la commune.
Merci. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions, Monsieur Mindet ?
Oui, juste une petite remarque sur la présentation. Dans l'annexe qui est proposée, il y a le détail des tarifs 2025. Ça aurait été bien de nous mettre un petit comparatif avec un rappel des 2024, parce qu'il a fallu remonter pour voir un peu...
Merci. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu l'annexer. On vous les donne un petit peu comme ça oralement, mais je prends la remarque.
Alors, pour les dispositifs donc, de 2024, publicitaire, pré-enseigne, affichage non numérique, donc en 2024, donc, c'était 17,70 € et en 2025, c'est passé à 18,60 €. Donc ça fait moins de 1 € d'écart. Après, pour les dispositifs publicitaires et affichage numérique, donc superficie inférieure ou égale 50 mètres carrés, 2024, 53,10 €. En 2025, ce sera 55,70 €. Donc là, ça fera 2 € et quelques. Vous voulez tous les tarifs ?
Non, mais
voilà,
c'est pour vous dire que les proportions.
C'est infime. Voilà.
C'est vrai qu'on aurait pu le faire figurer dedans.
Oui, pour comparer. Oui, on les avait dans la délibération de l'année dernière. Pardon.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur la délibération ? On la soumet au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie. J'y pense parce qu'on a ça d'actualité. Vous pouvez être sur les enseignes et autres. Vous pouvez être parfois interpellé par tel ou tel commerçant, porteur de projet ou autre. Qui s'installe, on voit qu'il y a quelques installations en ce moment, et qui sollicite des enseignes ou des publicités un petit peu volumineuses, vous voyez. Donc c'est vrai que je voulais souligner l'excellent travail qui est fait par nos services. Je pense à Isabelle Dutosia et d'autres qui travaillent autour et qui ont le rôle un peu ingrat de faire respecter les enseignes, tant dans la présentation de la dimension et la réglementation, parce que c'est vrai que souvent les commerçants voudraient en avoir un peu partout, et on essaye de, voilà, au maximum de les élus que nous sommes, on est parfois sollicité par ces commerçants qui s'en étonnent, mais voilà, on essaye aussi d'avoir une certaine harmonie et de faire ça en bonne intelligence. Donc c'est un travail qui n'est pas toujours évident, mais qui vise à ce qu'il y ait de moins de pollution visuelle. Tout à l'heure, on parlait aussi des recettes qui sont captées, un effort comme celui que nous avons fait récemment, de dépolluer visuellement les axes qui arrivent de Mazerolboug, l'axe d'Alingsas, pour essayer d'avoir, de ne plus avoir ces grands panneaux publicitaires partout. C'est un effort qui est entre 30 et 50 000 euros de recettes en moins. Hein, donc c'est aussi une sorte d'investissement pour l'environnement, si je puis m'exprimer ainsi, ou un manque à gagner, mais on considère que c'est un effort qu'il faut faire. On ne pourra peut-être pas le faire partout, sur tous les axes, mais voilà, c'est dans cette logique-là que s'inscrit notre RLPI. Nous l'avons voté, et je vous propose, on l'a voté, oui, et je vous propose la délibération suivante que je vais vous présenter. Il s'agit, on va essayer de prendre un tout petit peu de temps, de vous présenter le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et zonage pluvial. C'est un document important parce qu'il donne une vision et une feuille de route sur un domaine qui est ô combien important, les eaux pluviales, les inondations, toutes ces choses-là. Donc on a travaillé avec... Alors pourquoi on le présente ici? On le présente ici pour avoir l'avis de la commune de Mont-de-Marsan, comme les 17 autres communes vont le faire, puisque ensuite il y aura une décision, c'est une compétence agglo, qui sera à prendre en agglomération vraisemblablement à la rentrée. Et je vais vous donner quelques éléments. Alors je ne voudrais pas, je vais pas vous lire la délibération, mais essayer de vous donner quelques points. L'objectif de ce schéma directeur de gestion des eaux pluviales, SDGEP, il poursuit quatre objectifs. Le premier, c'est d'étendre les connaissances sur le patrimoine de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales. Et on va rentrer un peu dans les détails entre les bassins d'orage, etc. Le deuxième, c'est d'apporter une vision globale à la fois de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui dysfonctionne en matière hydraulique à l'échelle de notre interco. Il y a des choses qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qu'il faut améliorer. Le troisième objectif qui a été poursuivi dans ce schéma, qui a donné lieu à une étude importante, c'est de regarder les problèmes que nous avons à résoudre d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les problèmes majeurs liés aux eaux pluviales, que ce soit dans l'urbain ou dans les zones rurales. Et puis enfin, c'est de répondre à des exigences réglementaires. Je vous passe les articles, mais un certain nombre d'articles du Code général des collectivités territoriales qui musclent justement les politiques que les collectivités doivent avoir en matière de gestion des eaux pluviales. Juste vous resituer un petit peu des éléments de contexte. Ça me semble important de donner un peu de sens à ce schéma. Notre territoire de 18 communes, c'est 481 mètres carrés. Plusieurs bassins versants, vous le savez, la Midouze, la Dour. En matière d'eau pluviale, dans les zones urbaines, on a une gestion enterrée avec des réseaux souterrains, 85 km de réseaux enterrés d'eau pluviale et 208 km unitaire, 7000 à Valoir sur l'ensemble de l'agglomération et près de 180 zones tampons ou bassins d'orage et 80 puits d'infiltration que l'on retrouve soit chez les particuliers, soit aux abords des stades ou autres. En matière d'eau pluviale dans les zones rurales, c'est de la gestion plutôt à ciel ouvert et c'est 212 km de fossés, 400 mares et accotements et notamment les fossés, vous le savez, puisque dans une autre instance, nous avions fait l'effort et acté une gestion par une pelle mécanique d'entretien des fossés. C'est 80 km de linéaire entretenu par an avec notre agglomération. Voilà, pour vous donner quelques éléments de contexte, revenir sur deux points en zone rurale et en zone urbaine. En zone rurale, il y a des propositions d'action qui vont découler de ce schéma pour un fonctionnement hydraulique pérenne sur l'agglomération. En zone rurale, trois choses. Un, préserver et renforcer ce qu'on appelle l'effet tampon, c'est-à-dire l'effet éponge, garder l'eau sur place, l'infiltrer sur place grâce à des capacités d'infiltration dans les sols, afin de limiter le ruissellement, pas envoyer l'eau ailleurs, hein, chez le voisin. Le deuxième point, c'est préserver et renforcer les aménagements qui assurent une continuité hydraulique. Là, on n'est plus sur un point d'attention qui viendra impacter demain le PLUI et nos facultés d'accorder des permis de construire, c'est-à-dire que on est à l'échelle de 2 ans, hein. C'est dans 2 ans que ça pourra être définitif et impacter les PLUI. Mais d'ores et déjà, on fait des préconisations parce qu'il y a des ruissellements ou on va dire oui, des ruissellements naturels et des écoulements naturels sur lesquels il faut être vigilant, notamment quand on octroie permis de construire ou autre extension. Et puis enfin, c'est le troisième point sur les zones rurales, c'est d'entretenir les ouvrages existants. Je parle de bassins d'orage, de bassins de stockage. On parle des bassins qu'on peut voir chez Toyota ou au Grand Moon, ces grands bassins de stockage. En zone urbaine, ultra-urbaine, trois ou quatre points pour justement d'action. Limiter les rejets vers les réseaux unitaires. Hein, essayer de ne pas tout envoyer au même endroit dans le réseau des eaux usées. Ça part à notre station d'épuration. Et de faire en sorte que chacun infiltre au maximum l'eau sur sa parcelle, quand c'est possible, et ça doit être possible. Protéger les exutoires, les avaloirs si vous préférez, et améliorer la qualité de jets d'eau pluviale. Et puis ne pas urbaniser les dents creuses, alors attention, les dents creuses zone verte, hein, pour pouvoir permettre d'avoir, y compris en zone urbaine, c'est au-delà de l'aspect environnemental, d'avoir des zones où s'infiltre l'eau. On peut quand même mettre des exceptions sur les dents creuses ou les zones de friches de type industriel qui sont déjà imperméabilisées. Et puis entretenir là aussi les ouvrages existants. Voilà en zone rurale et en zone urbaine les propositions d'action qui sont un peu plus détaillées dans ce schéma. Je vous fais grâce des détails. Vous dire, voilà, il y a des actions qualitatives et quantitatives, j'essaie d'aller vite, donc des réparations ponctuelles, de l'identification des zones d'entretien prioritaires, l'optimisation des bassins existants, la création de rétention en amont des zones. Hein, quand on a un point bas, on en a quelques-uns à Mont-de-Marsan, derrière le Grand Moon, on a des points très très bas où on a parfois, une ou deux fois par an, et de plus en plus souvent, des habitants qui sont là, qui voient de l'eau arriver alors qu'il n'y en avait pas jusqu'alors. Donc ces points très bas, bah, l'eau elle va au point bas, donc il faut essayer de créer des zones un peu au-dessus en amont pour limiter, pour stocker les écoulements. Il y en a un peu plus, on va dire, à Saint-Pierre-du-Mont qu'à Mont-de-Marsan, notamment dans des zones qui sont des zones d'attention, du côté de Giffy, de Jean Cassaigne, etc., où là on a des points bas. Donc voilà sur les actions. Pour aller assez vite sur le reste, vous dire que la gestion donc, des eaux pluviales constitue un enjeu majeur sur Mont-de-Marsan. Ce schéma-là, il vise aussi à faire une cartographie qui a été faite par différentes sources, hein, géographiques, scientifiques, topographiques, mais aussi par des enquêtes auprès des maires, des élus, des habitants, des gens qui connaissent parfaitement leur village, pour pouvoir avoir les zonages des risques d'inondation, les zonages d'assainissement pluvial et faire un mix de tout ça, ce qu'ils appellent le zonage eau pluviale, c'est avoir une vraie cartographie village par village. Il y a une application qui est très précise où chacun peut aller voir les zones avec des couleurs, etc. Et notamment demain, des zones qui nous aiguilleront dans les avenants qu'on doit faire sur le PLUI. Non pas qu'aujourd'hui on construit n'importe où, n'importe comment, il y a déjà des démarches vertueuses qui sont faites. Nos services d'instruction font des préconisations. Demain, avec ce document-là, sans tomber dans la folie jusqu'au boutiste, ce sera des obligations. Aujourd'hui, on préconise sur certains points. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire, en espérant ne rien avoir oublié de l'essentiel. Mais je voulais vraiment qu'on se pose un peu sur cette délibération. Voilà, vous dire qu'il y a des cartographies où on voit des zones inondables liées au ruissellement, des zones de vigilance, des zones potentiellement inondables liées au débordement, des zones de vigilance aussi sur des remontées de nappes, et que toutes ces cartographies impacteront des façons d'autoriser des permis de construire ou de un peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas construire, qu'on pourra construire nulle part. Par exemple, une zone de vigilance où il y a des remontées de nappes, on pourra construire, mais avec des préconisations bâtimentaires de sous-sol ou de surélévation ou autre, un peu différentes. Voilà. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Voilà, donc pour synthétiser, la gestion des eaux pluviales, c'est un enjeu majeur. Des notions de gestion à la parcelle autant que possible, c'est-à-dire pousser les gens à infiltrer eux-mêmes l'eau sur leur parcelle et pas l'envoyer ailleurs. Une notion de limiter les surfaces imperméabilisées, c'est ce qui se faisait déjà en favorisant les espaces en pleine terre. Des notions d'exploiter la capacité d'infiltration des sols et d'augmenter ces zones où on peut infiltrer de l'eau pour arrêter la c'est déjà le cas, mais pour arrêter la politique du tout tuyau, où on envoie un peu chez le voisin ou à la station d'épuration, y compris les eaux pluviales, et réduire les rejets vers le réseau unitaire, je l'ai dit, donc éviter de mettre tout dans le même tuyau. Voilà, en quelque sorte, ce que je souhaitais vous dire, avec notamment des aménagements de plus en plus techniques, coûteux aussi, mais ils sont subventionnés, la notion de pollution et de séparation des hydrocarbures, de l'eau qui ruisselle sur une place ou sur une route, elle se charge d'hydrocarbures et il ne faut pas envoyer tout ça à la station. Donc il y a des mécanismes qui permettent de retenir ces hydrocarbures dans des séparateurs, plus ou moins, et qui sont ensuite relevés par camion tous les 2 ou 3 ans. Je n'ai pas forcément la fréquence, mais ça permet de limiter la pollution des eaux qui sont renvoyées. Voilà rapidement ce que je souhaitais vous dire. Pour vous donner un peu un calendrier de ce schéma et de ce qui se passe après, je crois que j'ai un calendrier qui est là. Aujourd'hui, ce sont des délibérations dans les 18 communes. On peut espérer, si tout le monde délibère, qu'en septembre-octobre, on espère avoir la possibilité de cette validation dans une délibération en conseil communautaire. Ensuite, on a un compteur qui peut passer de 1 an à 1 an et demi entre l'enquête publique sur le zonage, donc une enquête publique qui va durer à peu près 6 mois, qui sera plutôt en 2025, et puis à nouveau une délibération pour rendre le zonage exécutoire, et ensuite on intègre ça dans les politiques d'instruction de dossier, PLUI, instruction de permis de construire et autres. Voilà ce que je souhaitais vous dire en quelques mots. Il me semblait important de ne pas balayer comme ça rapidement cette délibération. Je finirai par vous donner deux exemples concrets qui montrent que nous n'avons pas forcément attendu ce type de schéma pour, dès que c'est possible, avoir un coup d'avance sur la gestion des eaux pluviales et autres et les infiltrations. Premier exemple, avenue Henri Farbos, pardon, où on rentre déjà dans le schéma des eaux pluviales. C'est-à-dire que s'il était effectif aujourd'hui, l'avenue Farbos, elle aurait déjà suivi toutes les préconisations qui sont là. Et le deuxième point, qui rentre aussi là-dedans, plus dans la végétalisation et rendre perméable des terres qui ne l'étaient pas, c'est l'île Lolom, suivi par nos services aussi, qui vise à désindustrialiser, à enlever des zones imperméables pour les rendre un peu à la nature et faire que ça s'infiltre sur place en végétalisant. Donc voilà 2 exemples très concrets qui s'inscrivent parfaitement dans ce qui sera demain. Je ne parlerai pas de contraintes, mais plutôt d'opportunités d'être vertueux, et vous dire que d'ores et déjà aujourd'hui, on n'attend pas que ces choses-là soient dans le marbre d'obligations liées au PLUI. Nos services préconisent, puisque c'est ce qu'ils ont le droit de faire aujourd'hui, préconisent qu'on ait ce respect de ce schéma. Voilà, pardon d'avoir été un petit peu long, mais il me semble que ce type de délibération mérite quand même de se poser. On sait que l'enjeu de l'eau est un enjeu majeur. Est-ce que vous avez des remarques ou des compléments ou des questions? Alors là, on donne un avis en fait. On approuve la démarche et la cartographie. Alors, cartographie, j'imagine que vous n'avez pas été voir les cartographies de tous les villages, mais sachez que les maires l'ont fait puisqu'ils ont été partie prenante. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie et je passe la parole ensuite à Catherine Piquet pour nous parler de la définition des périmètres et développement prioritaire du réseau de chaleur géothermie à Mont-de-Marsan.
Merci, monsieur le maire. La ville de Mont-de-Marsan possède 3 réseaux de chaleur exploités en régie directe, dénommés GMM1, GMM2, réseau de chaleur Pérouate. Le classement des réseaux de chaleur est un outil de planification énergétique et territoriale à disposition des collectivités leur permettant de mieux maîtriser le développement de la chaleur renouvelable. La procédure de classement permet de rendre obligatoire le raccordement au réseau de chaleur pour les bâtiments neufs ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants qui sont situés dans des zones préalablement identifiées appelées zones de développement prioritaire. Au sein de ces zones, l'obligation de raccordement constitue le principe qui s'impose et le non-raccordement constitue l'exception. Il vous est ainsi proposé de valider le classement des réseaux de chaleur 4003C, géothermie de Mont-de-Marsan GMM1, GMM2, de définir les périmètres de développement prioritaire des trois réseaux de chaleur tels qu'ils figurent dans les annexes, au sein desquels le raccordement est obligatoire. Ces périmètres de développement prioritaire de chaque réseau pourront être revisités en fonction des évolutions futures des réseaux et des projets d'aménagement du territoire.
Merci beaucoup, voilà. Cathy. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là, Monsieur Indé? Alors, je ne vais pas pouvoir vous détailler le nom des rues.
Non, mais je sais.
Je comprends parfaitement, ça vous appartient.
Vous avez du jaune.
Oui, Cathy.
Il y a la zone du Pérouat. Vous avez l'autre zone, MMM1, je pense. C'est, se situe à l'hôpital Sainte-Anne. Et la troisième zone, c'est l'école du Carbouet et les MME. Voilà, les zones, si ça peut vous aider. Mais on peut toujours demander à M. Marboutin de vous donner une carte plus précise. Pardon ? Ah ben alors. D'accord. Oui.
Le périmètre, c'est le rouge. Le nouveau périmètre, c'est le rouge. Mmh.
D'accord.
Mmh. Alors, moi, j'ai.
Et le contour rouge maintenant.
Ouais. Alors, je juste sur ce point-là, j'entends ce que vous dites. Moi, j'ai un petit écran. Et alors, je ne sais pas si j'ai été privilégié, mais j'ai...
Non, vous en avez un très grand aussi.
Non, plus petit que le vôtre. J'ai regardé, j'arrivais quand même à voir... Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas le nom des rues, mais on arrive quand même à voir, situer des repères. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu, moi. Alors après, j'entends, si vous voulez être très précis par rapport à ça, le principe, c'est un rayonnement, de toute façon, autour des puits que vous connaissez, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que... Et on s'en est déjà parlé, je crois, de temps en temps avec Alain Bachier, on en parle sur ces sujets-là. Il ne faut pas imaginer que de l'eau qui sort à 65 degrés à tel endroit, on peut l'envoyer à l'autre bout de la ville. Parce que le coût de l'eau, le coût du chauffage va être plus cher. Donc c'est forcément dans un rayon autour, mais je sais que ce n'est pas là votre remarque. Votre remarque, c'était d'avoir peut-être plus de précision. Moi, je vais maintenir cette délibération parce que j'ai eu la chance de voir avec précision ces points. Mais je prends le point, on essaiera de trouver un accès avec notre régie pour que vous ayez plus de précision. Non. C'est en général des travaux qui se font plutôt en commission, mais je regarderai qu'est-ce qui a été fait. Geneviève Dariussec.
Ben oui, mais en commission. Oui, mais laquelle commission ?
Excusez-moi. Non, ce dossier de la géothermie est très important. Enfin, la géothermie est une ressource que nous avons sur notre territoire et qui est particulièrement importante. Moi, j'ai la même interrogation avec les cartes où je retrouve. Excusez-moi, je veux juste avoir la compréhension de la légende. Les tracés rouges, ce sont les périmètres existants. Les tracés roses, c'est quoi ? Voilà, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en définitive, GMM1, c'est ce qui est au niveau de la base aérienne de l'hôpital Sainte-Anne. Ensuite, il y a le réseau du Peyroit que nous avons développé quand nous avons fait le renouvellement urbain, tous les travaux de renouvellement urbain. Et enfin, GMM2, effectivement, c'est du côté du Carboué et de la gendarmerie mobile qui ont déjà accès à cette énergie. Donc, qu'est-ce qui change par rapport à tout ça? C'est la question que je pose, quoi.
Il me semble que c'est le rouge, c'est le nouveau, le rouge. Hein. C'est pas l'ancien. Hein. C'est le trait rouge qui est le nouveau. Donc, on voit le trait c'est ça, hein, Cathy, hein. Le trait rose, on va dire, c'est l'actuel. Et le trait rouge, c'est l'étendue. C'est cela ou pas?
Bah, le trait rouge, c'est l'hôpital... C'est l'hôpital Sainte-Anne, voilà, qui est déjà sous GMM1. Bon, en fait, tout ça, je sais pas. C'est simplement pour essayer de comprendre un petit peu. Maintenant, tout ce qui peut amener à développer la géothermie, à titre personnel, je suis favorable. Donc, c'est pas le sujet. Hein.
On essaye d'avoir la réponse à la question, le trait rouge ou le trait rose.
Si je peux me permettre, on a eu la présentation par M. Marboutin en commission service public. Et effectivement, le trait rose, c'est le réseau de chaleur, hein, par exemple, c'est le réseau lui-même. Alors qu'en rouge, c'est le périmètre
pour
lequel il y aura une obligation.
C'est-à-dire le rouge comprend les étendues.
Oui, mais c'est des zones qui sont déjà desservies. Là.
Pas toutes.
Qu'il y avait eu des négociations aussi avec les organismes qui sont dans le périmètre et ceux qui ne souhaitaient pas y être. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'impose. Ils ont aussi assoupli les choses.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Et on enregistre votre remarque. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, M. Mendé. Je vous remercie. Et tant que tu y es, Cathy, le plan de sauvegarde.
Le plan communal de sauvegarde actuel date de 2013. Il avait déjà été élaboré avec les services du Centre de gestion des Landes. Le CDG propose une convention d'adhésion au service PCS qui permettra la mise à jour de ce dernier, ainsi que du document d'information communale sur les risques majeurs, notamment prendre en compte les modifications introduites par le nouveau document départemental sur les risques majeurs arrêté par les services de l'État dans le département, prendre en compte tous les changements de personnel, de mise à jour des tableaux relatifs aux personnes nécessitant une attention particulière, de numéros de téléphone, mise à jour de la cartographie, et de réaliser une mise à jour du système d'alerte et d'information des populations, ainsi que l'affichage obligatoire en mairie concernant les risques majeurs. Il est aussi précisé que ce document prendra en compte les risques cyber afin de répondre au plus vite aux attaques. La durée de la convention est de 3 ans et le coût de 5 000 euros.
Voilà, messieurs. Merci beaucoup, Cathy Piquet. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération, cette convention avec le CDG? Pas de questions, pas de voix contre, pas d'abstention. Donc, c'est voté à l'unanimité. Et nous allons passer la parole à Christophe Fourcade pour la mise à jour du tableau des effectifs. Christophe.
Merci, monsieur le maire. Donc ce soir, nous vous présentons la mise à jour du tableau des effectifs avec les dernières modifications qui concernent la ville, en l'occurrence un employé municipal de la piscine municipale qui a fait valoir ses droits à la retraite, et afin que son remplaçant qui est déjà en poste puisse intégrer son poste, justement, il y a lieu de modifier le libellé de son emploi.
Y a-t-il des questions particulières sur cette délibération? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Et la décision modificative sur le budget, Christophe Fourcade.
Alors, cette DM a pour but de mettre à jour, entre la date du vote du budget et aujourd'hui, les modifications budgétaires apparaissant en fonctionnement et en investissement,
avec la revalorisation des recettes de fonctionnement du chapitre 74 et plus spécifiquement les ajustements reçus au titre de la DFC, de la DSU et du fonds de péréquation pour un total de 254 087 euros. Nous en profitons pour passer des provisions supplémentaires au chapitre 012 à hauteur de 102 087 euros et un réajustement des dépenses d'énergie de 152 000 euros. Nous procédons également à une réaffectation des dépenses de fonctionnement en investissement pour des équipements de la police municipale à hauteur de 45 000 euros. Et en investissement, le virement à la section de fonctionnement d'un montant de 45 000 euros s'équilibre avec l'acquisition de matériel pour la police municipale, en particulier pour les motos. À noter que ces investissements sont couverts par l'appel à projet de 300 000 euros remporté l'an dernier et dont le versement s'étale sur 2 ans. Enfin, nous profitons de cette décision modificative pour rectifier à hauteur de 180 000 euros les frais nécessaires à la démolition de l'îlot Fontainebleau. La section d'investissement est équilibrée en ajustant le montant prévisible des cessions qui interviendront d'ici la fin de l'année.
Merci. Avez-vous des questions, Madame Pio?
Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, dans cette délibération, on se rend compte qu'il y a des surplus de recettes fiscales par rapport à la prévision du budget primitif, mais le tableau ne nous paraît pas très précis sur le montant, justement, de ce surplus. Vous dites que les surplus sont réaffectés aux fluides, à des rémunérations, mais on ne voit pas très bien dans le tableau quel est le montant global des surplus. Et nous constatons que la ville arrive à dégager des surplus dans les recettes fiscales. Donc du coup, nous posons la question, était-il nécessaire d'augmenter les impôts locaux, puisqu'on voit qu'il y a finalement un peu plus de recettes fiscales. Et justement, cette question prend peut-être encore plus de sens, surtout à l'époque actuelle. Alors, je vous rappelle que je vous avais alerté, monsieur le maire ne m'écoute pas, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que je vous avais alerté lors de plusieurs conseils municipaux précédents sur les risques politiques de tels choix. Alors, bien évidemment, l'augmentation des impôts n'est pas la seule raison expliquant la montée du RN et les succès électoraux de ce parti. Mais elle y participe, je n'y reviens pas, hein, je l'avais déjà développé, et on y est. La situation actuelle, la situation politique actuelle, eh bien, elle est, vous en conviendrez tous, je pense, elle est gravissime. Alors, cette intervention et cette question donc, sur les impôts me permet et me donne l'occasion de redire ici les propos ultra choquants que Mme Darrieussecq avait tenus lors de la séance du 11 avril 2024 du Conseil municipal. À la fin de mon intervention, elle n'avait rien trouvé de mieux que d'affirmer que, je la cite, le RN et la gauche avaient à peu près le même programme. Non, non, vous aviez dit la gauche. Et le PV le redit bien. Ces propos sont ultra choquants pour plusieurs raisons. Je vous entends, Madame Darrieussecq. D'abord parce qu'ils laissent entendre que la gauche et l'extrême droite défendent les mêmes idées et les mêmes valeurs. Alors on peut se demander ce qu'il y a de commun entre un courant politique progressiste et un autre xénophobe, entre un courant politique qui cherche à résister à l'exploitation capitaliste et un autre qui veut favoriser le capital, entre les députés de gauche qui déposent un amendement, par exemple, pour augmenter le SMIC et ceux du RN qui, au contraire, votent contre, entre des députés qui œuvrent pour la transition écologique et ceux qui s'opposent systématiquement à tout projet le permettant. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Mais surtout, au-delà du fait que ces propos sont choquants, ils sont dangereux. Et encore plus dangereux par rapport à la situation, je le répète, politique que l'on vit. Pourquoi sont-ils graves? En fabriquant un tel amalgame, ces propos participent de la dédiabolisation du RN. Et minimiser la portée d'un vote en faveur de ce parti en imaginant une similarité entre deux bords politiques opposés,
risque justement de favoriser, et on le voit bien, hein, de favoriser l'extrême droite. Les gens peuvent penser que voter pour le RN revient finalement à voter pour la gauche. Et enfin, dernière raison qui montre que ce propos est dangereux, c'est que c'est finalement une pirouette pour éviter d'analyser les ressorts du vote RN, l'abandon des territoires, la casse continuelle du service public local, postal, hospitalier, éducatif, policier. On a reparlé de la désaffectation de l'école du Carbouët. Bon, bref, eh bien tout ça, elle l'a prouvé en tant que députée et ministre. Eh bien, c'est le moteur évident du RN, en raison de la colère aveugle que cette politique provoque. Alors, c'était certainement pour se défausser, mais ça serait bien que les gens qui ont été ministres assument leurs responsabilités et ne couvrent pas le désentêtement de la France sur le dos des classes populaires. Et je regrette et nous regrettons la pauvreté d'analyse d'une députée de la Nation. Hein, ça nous paraissait vraiment très affligeant. Voilà, donc... Le montant précis, s'il vous plaît, de ces surplus, et peut-être que ça nous aurait évité cette augmentation inutile de ces impôts locaux.
Alors, je ne crois pas que ce soit des surplus d'impôts, mais on est plutôt sur la DGF, je crois, mais je vais laisser Christophe Rocade répondre d'un point de vue technique.
Ouais, bah, comme vous pouvez le lire dans la DM, c'est marqué, hein, donc je ne comprends pas bien les propos par rapport à... La demande d'explication par rapport aux propos de Mme Darussec, ça n'a rien à voir, mais bon... Donc la dotation forfaitaire des communes, elle augmente de 62 000 euros. Elle n'était pas prévue au budget. La DSU de 49 902 euros et la dotation de péréquation de 141 507 euros. Et nous profitons de ces recettes supplémentaires pour ajuster des provisions sur le chapitre 011 et le 012 en raison des augmentations d'énergie qu'il y a lieu d'anticiper d'ici la fin de l'année et pour le 012 sur le suivi de l'atterrissage du 012 sur l'année 2024.
Ce sont des recettes de dotation. Quelqu'un veut-il prendre la parole ? Il ne faut pas que j'oublie de faire voter cette délibération. Y a-t-il une prise de parole ? On essaye de se concentrer sur la délibération depuis du temps. Je vous donne la parole.
Vous faites un procès d'intention.
Non, je suis en anticipation.
Faites attention.
Toujours un coup d'avance, comme non, le schéma, le schéma des eaux pluviales.
Faites attention, vous dites toujours des trucs et puis après il va y avoir une délibération. Non, je vais rester sur ça. Je vais d'abord vous poser une question. Les dépenses d'équipement de la police municipale, c'est quoi ?
Il y en a pour 30 000 euros de moto et d'autres matériels pour par exemple pour je pense qu'il doit y avoir des gilets pare-balles et du matériel pour les vestiaires. Mais comme je l'ai dit, ça faisait partie de la dotation de l'appel à projet que nous avons perçu, qui était du fonctionnement et que nous transférons en investissement.
Y a-t-il d'autres...
Oui, je ne sais pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il s'agit d'armer la police municipale ?
Oui, vous avez dû le voir.
Voilà. Donc je voulais dire deux mots sur ce sujet. Bon, on assiste effectivement, et malheureusement, à un transfert de mission hein, de la police nationale vers la police municipale, qui a... plusieurs causes. Hein. D'abord, des effectifs qui sont sans cesse réduits et peut-être qui sont à flux tendu, avec donc des missions qui ne sont plus assumées parce qu'ils relèvent tout de même du régalien. Donc, nous, on constate ça, on le déplore, hein, mais... pas d'opposition particulière et surtout pas dogmatique à ce que nos policiers municipaux puissent exercer un certain nombre de missions en sécurité, évidemment pour eux, puisque tout à l'heure on évoquait certains sujets qui sont des sujets évidemment prioritaire pour nos concitoyens, c'est-à-dire se sentir bien à l'endroit où l'on vit, la police municipale, évidemment, y participe et donc nous n'y voyons pas d'inconvénients particuliers. Et on ne chuchote pas notre volonté de valider effectivement l'option qui est prise, même si on sait que la cause, celle que j'évoquais tout à l'heure, qui, elle, nous pose plus problème. Ce que nous voulons effectivement uniquement vous demander est mettre l'accent sur le fait que finalement cela quelque part nous oblige aussi. Et que donc nous devons assumer une responsabilité qui est une responsabilité supplémentaire et particulière qui n'est pas rien. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que les personnels qui se voient donc dotés de ces armes puissent bénéficier, je pense que le service RH devra effectivement permettre cela, de formations adaptées, de formations les plus poussées possibles. Je ne doute pas qu'elles aient déjà pu être mises en place, mais il faudra mettre en place un programme pérenne, annuel, etc. Bon, on ne va pas se faire un dessin et renouveler effectivement dans le temps. Parce que, et ça je veux le dire par rapport aux policiers nationaux, le métier de policier est un vrai métier. C'est un vrai métier, et donc ce que nous souhaitons également, c'est qu'il y ait une coopération, qui soit une coopération sans aucune arrière-pensée, entre la police municipale et la police nationale avec ses policiers effectivement de terrain, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans une concurrence mais bien dans des actions de complémentarité parce que il faut là aussi que nous arrivions au niveau d'exigence qui est celle que nous attendons de nos policiers nationaux et donc qui quelque part sera attendue de nos policiers municipaux, dont je tiens à saluer ici publiquement le travail. Voilà, je voulais éclaircir effectivement la position de notre groupe pour qu'elle soit très claire et sans aucune ambiguïté, c'est-à-dire oui, mais avec une vigilance évidemment sur ces points que je viens de développer.
Très bien. Madame Dariussec, et après on fait une réponse globale, Cathy. Geneviève, allez-y.
C'était juste une explication de vote. Hein.
Ça marche.
Nous sommes sur une décision modificative du budget.
D'accord.
Ou alors on laisse répondre Madame Dariussec d'abord, mais moi j'en ai terminé après, puisque finalement... Bon. Compte tenu effectivement de ce que nous venons d'énoncer, compte tenu également des modifications qui sont celles qui... existait plus ou moins déjà, nous voterons cette délibération.
Geneviève Dariussec et ensuite Céline Piau. C'était vous ?
Ah d'accord, ok.
Bien, merci Monsieur le maire. Bon, moi je ne suis jamais déçue ici parce que, en définitive, Monsieur le maire, vous êtes bien protégé, tout le monde tombe sur moi. Les oppositions et vous êtes tranquille dans votre fauteuil quand vous ne tombez pas sur moi aussi. Donc, franchement, je me sens très à l'aise. D'abord, sur l'ADM, moi, je suis très contente de pouvoir constater que ce ne sont pas des recettes fiscales, mais des dotations supplémentaires qui arrivent dans nos budgets. Et 255 000 ou 254 000 euros de dotation, c'est une supplémentaire, c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'on peut le saluer. Pour le reste de l'ADM et l'équipement de la police municipale, c'est vrai que c'est quelque chose dont nous n'avons jamais parlé ici en conseil municipal et jamais débattu. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'interrogation. Et pour vous dire que j'ai quand même beaucoup cheminé sur ce sujet, quand j'étais maire, je n'étais pas favorable à l'armement de la police municipale. Dans les périodes où les choses étaient... bien sûr, on les a équipés de tonfa, puis de taser. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de fois ils se sont servis de leur taser. par exemple. C'est pour voir un petit peu si vraiment l'usage de ces équipements est important, régulier, très occasionnel. Je pense très occasionnel, je l'imagine. Voilà. Après, c'est vrai que nous sommes dans une période plus difficile, plus violente, et où on peut penser que nos policiers peuvent être des cibles et peuvent avoir besoin de se protéger. Et ça, c'est des choses que je peux entendre, et je pense que l'évolution, effectivement... mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons pas débattu ici en Conseil, mais qui est un sujet très important. Voilà. Une fois que l'on a dit cela, bien entendu, Monsieur Dutin, moi, j'entends toute votre rhétorique sur la police nationale qui serait en difficulté, avec peu de personnel, dans ses missions, des missions qu'ils ont du mal à assumer. Enfin, bon, nous avons ajouté 10 000 policiers en France entière. Et il en est arrivé dans les Landes. Ils ne sont pas... alors qu'il en avait été supprimé 15 000 dans les années 2007 et jamais remis depuis. Donc moi, je veux bien assumer beaucoup de choses, mais je veux assumer les politiques qui ont été mises en œuvre. Donc 10 000 policiers de plus, dont certains qui sont arrivés aussi dans les Landes, et également, puisque nous sommes dans la sécurité, qui ne concerne pas Mont-de-Marsan, mais enfin qui concerne les Landes, 3 brigades de gendarmerie supplémentaires qui sont sur le territoire. Donc tout ce qui est régalien, je crois, l'attention a été portée sur le régalien et sur la sécurité des Français. Après que l'émission, moi je vais voir la directrice départementale de la police, leurs missions, elles évoluent en fonction de la criminalité, bien sûr, et des besoins de sécurité de nos concitoyens. Mais je dois dire que dans notre département, les affaires résolues sont de plus en plus nombreuses. La délinquance a plutôt diminué. Et je crois qu'on est dans un département où la police fait son travail, mène ses enquêtes et les moyens de ses missions. Enfin, je l'espère, et je suis attentive en tout cas à ce qu'elle continue de les avoir. Et que la police municipale, qui était auparavant une police de proximité, c'est-à-dire qu'elle était dans les quartiers, qu'elle allait dans les maisons, qu'elle s'assurait un petit peu de la vie des gens et réglait quelquefois des petits conflits de voisinage plus que des grandes incivilités ou des grands problèmes de sécurité, soit plus sollicitée dans la surveillance, dans... Bon, voilà, je crois que notre ville évolue, nos centres-villes évoluent, et c'est vrai que ces missions, j'imagine que vous leur donnez des missions qui sont plus variées et qui nécessitent certainement ce que vous souhaitez mettre en œuvre, et notamment avec l'armement. Et bien sûr qu'ils travailleront toujours avec la police nationale, je l'imagine, ils le faisaient, ils l'ont toujours fait, et ça s'est toujours fait en bonne entente. Donc ça, c'est une première chose. Pour terminer, je voudrais dire à Madame Piau que j'ai dit effectivement, c'est écrit comme ça, mais dans ma pensée, c'était l'extrême droite et l'extrême gauche. D'ailleurs, je pense que vous avez, vous aussi, commis un livre sur les dérives d'une certaine extrême gauche que vous ne soutenez pas. Et je pense que les projets des uns et des autres sont un petit peu similaires, dans le fait qu'ils ne sont absolument pas ni réalistes ni réalisables et qu'ils nous enverraient tous dans le mur. Je parle juste des projets économiques et budgétaires. Je ne parle pas, bien sûr, des différences idéologiques qu'il peut y avoir entre un parti qui peut être effectivement xénophobe et un autre qui est communautariste et quelquefois antisémite, ce qui me dérange beaucoup. Donc, si vous voulez, je ne mets pas dos à dos, je mets face à face les gens, mais les programmes qu'ils proposent aux Français, ce sont un petit peu les mêmes, c'est-à-dire du populisme, c'est-à-dire que je donne plein de choses que je n'ai pas les moyens de donner. On peut faire rêver, mais à l'arrivée, effectivement, on ne fait plus rêver personne et on déçoit tout le monde, ce qui, dans l'état du pays aujourd'hui, n'est pas souhaitable. Je crois que les gens ont besoin d'être rassurés, assurés et stabilisés.
Si vous permettez, je vous donne la parole, mais on va éviter le... on va éviter la surenchère. Je voudrais, moi, revenir sur la délibération. On parle de police municipale. Donc, sur la police municipale, juste, en fait, vous avez posé les questions et amené les réponses. Donc, je vous en remercie. Et Geneviève Darussec et Frédéric Dutin, à savoir, oui, c'est une décision importante. À un moment donné, il faut... On prend des décisions, on en a discuté aussi avec, largement avec les équipes, avec l'équipe municipale de majorité, on a discuté avec la police municipale, avec mon adjointe Cathy en charge de ce dossier. On a aussi regardé ce qui se faisait ailleurs. C'est une décision importante, mûrement réfléchie, qui ne se prend jamais à la légère, et je peux vous garantir que pour arriver à cet équipement, ça ne se claque pas des doigts. C'est des formations très très lourdes, c'est des agréments, c'est un regard préfectoral très serré. Les formations ont eu lieu d'ailleurs récemment, je crois que 100% ont réussi leur formation. Voilà, ils sont rentrés hier. C'est des formations qui seront régulières. Il y a des aspects psychologiques aussi, hein, des entretiens psy, hein, enfin, il y a toute une batterie de choses. C'est un vrai, je ne vais pas dire parcours du combattant, ce serait mal utilisé, mais en tout cas un vrai parcours. Qui n'est pas pris à la légère. Je crois que c'est 58 ou 60% des polices municipales de typologie de ville comme les nôtres qui sont équipées de ce type. Alors, ce n'est pas que l'armement. On a la chance aussi d'avoir pu gagner un appel à projet. Ça va être la motorisation, donc des motos. On va être la première brigade motorisée dans les Landes, il me semble, de police municipale. À quoi ça sert, clairement? C'est de pouvoir être... On voit bien dans les réunions de quartier que nous avons menées récemment, et on a eu beaucoup de monde dans les réunions de quartier, hein, les gens sont très très intéressés, je ne sais pas s'ils sont intéressés par ce qui se raconte au national, mais en tout cas ils sont intéressés par la vie de leur cité et du quotidien, et nous on est réceptifs à ça, et au-delà des aspects de voirie et autres, et de voisinage, la vitesse, les incivilités sont des sujets qui reviennent régulièrement, et donc le fait de motoriser aussi, ça permet d'aller plus vite d'un endroit à l'autre, de pouvoir être plus réactif, de se démultiplier, parce que je ne vais pas multiplier par deux les effectifs de police, même si on a des embauches en cours. Embauches d'ailleurs qui seront facilitées, ce n'est pas la seule raison, parce qu'il y a un équipement autour, l'armement, mais pas que, qui crée une certaine attractivité aussi pour les profils. Hein, c'est assez compliqué de recruter des policiers municipaux en ce moment. On se les pique entre nous parce que c'est des formations un petit peu lourdes. Là où je veux, mais je pense pas que c'était pas l'idée, mais le policier national, c'est un vrai métier. Policier municipal, c'est un vrai métier. Et de plus en plus, et c'est vrai qu'il y a des missions qui sont aux côtés de la police nationale, on n'a pas attendu d'en parler aujourd'hui, il y a déjà des patrouilles qui se font en commun, etc., avec des équipements un peu hétérogènes. Alors, on ne va pas rentrer dans la psychose. Je voulais d'ailleurs que cette décision soit prise mûrement réfléchie, sereine, en dehors de tout fait divers qui aurait pu prêter à confusion, etc. C'est des choses qui sont mûrement réfléchies. Mais voilà, c'est un vrai métier, il y a des budgets de formation, il y a des gens qui ont des missions qui sont parfois très proches. Alors on peut le regretter ou pas, mais qui sont en tout cas complémentaires avec la police nationale. Donc voilà, vous dire aussi que c'est dans le cadre d'une réorganisation pour plus que de la sécurité, parler d'un pôle de proximité, un pôle de tranquillité publique, puisque nous avons sur le terrain, avec des missions bien évidemment différentes, les ASVP, les assistants de surveillance de la voie publique, nous avons les policiers municipaux, chacun avec ses fiches de poste et ses prérogatives, nous aurons demain... Ça va peut-être vous paraître surprenant, deux gardes champêtres. Alors, ce n'est pas le garde champêtre dans le film de Louis de Funès. Hein. C'est des gens qui seront avec des vrais pouvoirs de police, mais qui pourront mettre l'accent sur les incivilités et les délits environnementaux, entre guillemets, hein. En lien notamment avec les dépôts sauvages, les incivilités, etc. Donc, on essaye de... Il fait bon vivre à Mont-de-Marsan. Hein. On n'est pas à Chicago et on a envie que ça continue. Mais pour que ça continue, en effet, il faut passer la vitesse un petit peu supérieure pour plusieurs raisons, pas uniquement dans une surenchère sécuritaire, je ne sais pas du tout, et je remercie l'ensemble des intervenants parce qu'on n'a pas été dans les dogmes, là, c'est très bien. Donc moi non plus, ce n'est pas dogmatique la sécurité, mais je pense qu'il faut donner les moyens à notre police municipale et de passer ce cap. Voilà ce que je souhaitais dire. Après, les statistiques d'usage du taser, etc., j'entends. Moi, je n'ai pas envie d'attendre qu'ils aient besoin de l'utiliser pour dire, mince, j'aurais dû les équiper. Cela dit, le but du jeu, c'est de jamais s'en servir. Hein, on est bien d'accord. Hein, on est dans quelque chose de protection. Hein, on peut considérer que potentiellement, les gens qui portent du bleu peuvent être parfois aussi pris pour cible. Ça peut arriver. Je touche du bois, ce n'est pas arrivé. Mais il faut qu'on puisse donner des éléments en la matière. Je ne sais pas si Cathy, qui gère ça, ou Farid aussi, avec la sécurité des fêtes, vous avez un mot à rajouter. Puis après, je vous passe la parole.
Et au sujet de la formation, que les policiers municipaux font 2 formations par an, alors que la police nationale ne fait qu'une formation par an pour l'armement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très cadré.
Avec
voilà
des moyens.
Ce que je peux ajouter.
Non. Juste pour compléter et pour répondre à Frédéric Lutin, il existe aussi une convention de coordination qui définit les champs d'action de la police nationale et municipale. C'est entre les services de l'État et puis notre collectivité. Alors, je crois qu'elle existe, mais je pense qu'il faut la retravailler et mettre cet armement à l'intérieur de cette convention. Et puis, bien évidemment, l'armement, on en avait parlé depuis quelques années. La première étape, c'était le PIE, le pistolet à impulsion électrique, le taser, qui était une arme de catégorie B, mais qui est non létale. Et c'est vrai que l'évolution, c'était l'armement. Et moi, je suis très heureux que la collectivité prenne cette décision d'armer notre police municipale qui permet de protéger d'abord le policier et bien évidemment les habitants.
Et dans une approche qui n'est pas simplement le détail qui n'en est pas un, d'un outil, d'un armement ou d'une moto, dans une approche globale, je le dis, de tranquillité publique, qui va jusqu'à certaines conventions passées récemment avec monsieur le procureur sur des rappels à l'ordre, sans aller jusqu'à des choses judiciarisées, bien évidemment, mais sur les premiers niveaux. Voilà, je vous donne 2 exemples rapides. Dégradation du sapin de Noël, c'est pas la fin du monde, mais enfin, dégradation d'un sapin de Noël en pleine nuit, ou récemment, les arbres tronçonnés en sortie de nocturne, tronçonnés au petit matin, alors qu'on vient de planter des jingo biloba sur la place du théâtre. Voilà, il n'y a pas de crime là. On ne va pas aller engorger les tribunaux avec ça. Par contre, on a des systèmes qui permettent de pouvoir, en cohérence avec monsieur le procureur, de pouvoir recevoir les personnes, de pouvoir, avec la police municipale et nationale, avec notre système de vidéo protection, de pouvoir assez rapidement, même très rapidement, avoir dans le bureau du maire, en face de soi, celui qui a dégradé ou celle qui a dégradé le sapin, ou celui ou celle qui a dégradé. Alors après, s'il y a différents process de rappel à l'ordre, on n'ira pas jusqu'à, bien sûr, moi je n'ai pas les pouvoirs d'un juge ou d'un procureur, mais en tout cas, ça permet aussi d'aller jusqu'à du dédommagement, voire même peut-être demain des travaux d'intérêt généraux, avec la permission, bien évidemment, de monsieur le procureur. Donc voilà, et tout ça c'est un ensemble de choses. Hein, les dépôts sauvages où on travaille avec le SICTOM, dans nos réunions de quartier, c'est souvent ça. Hein, c'est les déjections de canines, hein, c'est les dépôts sauvages, c'est des choses comme ça. Donc tout ça c'est aussi pouvoir être. On ne peut pas mettre un policier municipal derrière chaque contrevenant ou chaque incivilité, mais il faut essayer d'avoir une approche globale de tout ça. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, c'était juste une question, une interrogation. Quand tout à l'heure on a demandé à M. Ourcade à quoi correspondaient les investissements liés à la police municipale, il nous répond gilets pare-balles et puis vestiaires et motos. Ça aurait pu être plus clair, enfin plus direct tout de suite. Non, mais je veux dire, on vous pose la question de l'armement et en fait, voilà, c'est déjà acté depuis déjà bien avant l'armement.
Non, mais là, sur la délibération voilà. Qui est là, je crois que les 30 000 sont liés aux motos, hein, sur cette délibération-là.
Oui, les pistolets, voilà. Donc c'est nouveau. Non, mais ce que je veux dire tout à l'heure, on vous pose une question, on n'a pas une réponse très très claire et c'est dans le débat qu'on comprend mieux que c'est l'armement.
Non,
voilà,
non,
c'est
non. Non, non, il a dit clairement que c'était 30 000 euros pour payer les motos, hein, c'est ça?
Dans le détail, 2 motos, 31 711 euros. Prix d'équipement pour prix de 2 motos, 31 711 euros. Prix d'équipement pour 2 agents, 4 512 euros. prix d'équipement de la communication, 4 400 euros. Total pour la brigade motorisée, 40 623 euros, qui correspond à ce qu'on a et qui n'était pas budgété au BP.
Allez, monsieur Mendé, puis on passe cette délibération.
Oui.
Ah, pardon, j'arrive.
Oui, j'aimerais quand même expliquer mon vote. Donc, moi, je reviens au fond. Sur la délib, on votera contre, puisqu'on vote contre le budget. Et un regret, c'est qu'on soit obligé de passer par ce genre de délib pour parler de l'armement de la police et de l'évolution de l'organisation de la police municipale. Voilà.
Je vous ferai une petite réponse par rapport à ça.
Parce que vous êtes invité sur Radio MDM, je crois, pour en parler. J'ai entendu ça.
Oh, je n'ai pas mon agenda en tête. Hein. Vous avez,
si
vous avez
de mauvaises oreilles.
Voilà, si vous avez mon agenda, on a un problème de messagerie.
Je n'ai pas le vôtre.
Faites-moi le passer parce que ça m'intéresse. Voilà. Allez-y.
Merci, monsieur le maire. Savoir, est-ce que vous pourriez nous rappeler les effectifs aujourd'hui de la police municipale ? Vous évoquez donc l'achat de deux motos. Vous évoquez l'achat de deux motos, ce qui veut dire que c'est également le recrutement de deux policiers municipaux ou est-ce que c'est des policiers qui sont déjà en poste qui pourront les utiliser, qui ont les permis adéquats et donc deux gardes champêtres. Mais je voulais savoir du coup si c'était deux gardes champêtres plus deux policiers municipaux qui ont un permis moto. Vous avez déjà dans les effectifs les personnes qui pourront utiliser... D'accord.
On a déjà des motards, a priori. Ils ne sont pas très loin d'ailleurs, ils sont juste là, mais ils sont sur leur moto. Avant de passer à la délibération, j'assume pleinement, mais je crois qu'il n'y a pas de. J'ai pas entendu de critique sur le fond et je le salue. J'assume pleinement d'avoir pris cette décision. Alors collégialement, j'ai quand même une équipe soudée avec qui on travaille, hein, je ne suis pas tout seul. Mais j'assume pleinement d'avoir pris cette décision sans en avoir fait un débat public à n'en plus finir.
Vous êtes sûr que vous avez une équipe soudée, monsieur Daillot ?
Oui, oui.
Pour partie, qui s'est ressoudée, qui s'est dessoudée pour d'autres...
L'important, c'est qu'elle soit soudée et majoritaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'assume complètement de ne pas en avoir fait un débat public parce que je sais très bien, et ça n'a pas été votre cas, je le salue, comment pourrait être instrumentalisé ce type de décision, alors que dans mon esprit, ça n'a aucune raison d'être, puisque c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Je répète qu'à Mont-de-Marsan, il fait bon vivre, hein, que le taser, il ne sert pas souvent, mais ce n'est pas une raison. Je pense qu'il faut passer un palier, parce que les missions sont complémentaires, etc. Donc c'est pour cette raison-là, et c'est complètement assumé, que ça n'a pas fait l'objet d'un débat et d'un feuilleton où on aurait pu déblatérer sur ces sujets-là, parce que je sais très bien quelle peut être l'instrumentalisation, et je ne veux absolument pas que ce soit le cas. Voilà. Je vous propose de voter la décision modificative. Y a-t-il des voix contre ? Alors, monsieur Mendé vote contre. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je vous propose de passer donc à la présentation des... C'est voté à la majorité. Présentation des différents rapports d'activité 2023 de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL. Nous avons un certain nombre de services publics locaux, la régie des pompes funèbres, le parc de stationnement, le chauffage urbain. On a eu ce même exercice avec l'agglo où il y avait les transports, etc. Vous avez ces comptes rendus d'activité, en quelque sorte, qui sont synthétiques et qui, je crois, ont été annexés. Je vous propose de vous en faire l'économie de la lecture exhaustive. Et si vous en avez... pris connaissance, il y a peut-être des points que vous voulez souligner ou relever. J'essaierai de vous répondre. Si je n'ai pas la réponse, je me tournerai vers les spécialistes. On y va.
Oui, c'est juste une interrogation. Donc, je comprends bien que j'avais lu attentivement l'article de loi qui dit qu'on doit présenter avant le 1er juillet le compte-rendu de cette commission. Après, moi, je trouve la date de la dernière réunion très mal choisie à ce moment-là, parce que le 5 septembre, c'est automatiquement décalé de plus d'un an. puisque là on est sur des bilans d'activité 2022, et est-ce que ça pourrait pas être décalé plus vers la fin de l'année? C'est juste une interrogation.
Ouais. Parce que je prends la remarque et je regarderai avec nos services si on peut anticiper un peu plus.
Il y a eu beaucoup de choses de fait depuis la sortie de ces bilans-là, quoi. Donc ça n'est plus d'actualité. Voilà.
Sur cette présentation, il faut que nous prenions acte des rapports d'activité de la CCLPL, donc la CCSPL, pardon, CCSPL. Et donc, il y a trois activités qui ont été présentées, pompe funèbre, stationnement. On est tous d'accord que ça vous a été présenté, donc nous en avons pris acte. Je vais laisser la parole à... C'est Claudie qui va présenter la délibération suivante, dans laquelle, tel que c'est noté par nos juristes, je ne dois pas prendre part au débat, alors ça je ne savais pas, et au vote. Donc, avant qu'on rentre dans cette délibération... Je vous dis simplement que c'est la suite d'une plainte qui est déposée par un des candidats non retenus du marché de prestations taurine, plainte pour des propos que j'ai tenus sur France Bleu et que je pense que vous avez pu retranscrire. C'est dans ce cadre-là que je vous demande, puisque il y a réellement... un courrier du tribunal qui m'est adressé par rapport à, pour repréciser si ces propos ont un caractère diffamatoire ou pas, que je vous demande la protection fonctionnelle. Et je vous laisse.
Bien, donc je reprends les propos de Monsieur le maire. Et donc dans son courrier en date du 11 juin 2024, Monsieur Charles Daillot, maire, sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle de la commune consécutivement à une plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Thierry Cazobon, président de la SAS Poderosa, pour diffamation pour des propos tenus à un journaliste et publié par voie électronique sur le site internet d'un organe de presse France Bleu Gascogne au sujet de sa candidature au marché de prestations de services pour l'organisation de spectacles tauromachiques. Pour rappel, la protection fonctionnelle des élus municipaux est notamment régie par les dispositions de l'article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales. À ce titre, un élu local doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique est mise en mouvement à son encontre. Je vous rappelle que la collectivité dispose d'un contrat de protection fonctionnelle des agents et des élus souscrit auprès de la SMACL. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l'octroi de la protection fonctionnelle de la collectivité à M. Charles Daillot, maire. Avez-vous des questions ou besoin d'un temps de réflexion? Si ce n'est pas le cas, on va passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Oui? Une abstention? Non? D'accord, une abstention. Merci. Donc c'est voté à la majorité. Donc on peut faire rentrer Monsieur le maire.
Allez, je voulais juste vous proposer de lever la séance avec deux informations positives. La première, c'est que c'est notre dernier conseil de l'été, donc On a débloqué un tout petit budget pour vous payer un coup à boire sur la terrasse du café en face, pour ceux qui veulent. J'ai regardé, ce n'était pas sûr, mais là, la météo va le permettre. Donc, vous êtes toutes et tous le bienvenu. Et la deuxième chose, nous avons une excellente nouvelle. Et voilà, on était très, très heureux avec Farid tout à l'heure d'apprendre que, après une championne du monde de cycliste sur piste l'année dernière, Mélanie Dupin, c'était en Amérique du Sud d'ailleurs qu'elle a gagné son titre, en Colombie. Nous avons, depuis très peu de tememps, une championne d'Europe d'haltérophilie dans sa catégorie. C'est Margot Kochetova. Son frangin était déjà un désespoir français. Pas un désespoir, hein, un espoir français. Bon, il n'était pas au JO de Paris. Margot est là. Margot, c'est ni plus ni moins ce qui se fait de mieux en haltérophilie, en catégorie d'âge. C'est vraiment l'espoir numéro un français. Alors, on va toucher du bois, pas lui porter la poisse, mais peut-être c'est les JO d'après. 4 fois championne de France, championne d'Europe, 3e au championnat du monde. Donc, elle arrive de Grèce. J'ai réussi à avoir un petit échange avec elle tout à l'heure. Elle descendait de l'avion. Elle sera là vendredi. Et donc, c'est pour nous une fierté. Et ça conforte aussi, sans triomphalisme, hein, parce que c'est elle qui a soulevé les... C'est pas nous, hein. Mais ça conforte aussi une politique sportive qui est certes de s'appuyer sur... deux vitrines que sont le basket et le rugby, hein, c'est nos ambassadeurs, mais de s'appuyer sur plus d'une trentaine de sports, sur 45 sports olympiques, on doit en avoir presque 40 ou 35. Donc on pratique ici des sports, tous les sports, y compris les moins médiatisés, des sports olympiques. À quelques jours des Jeux olympiques, c'est une satisfaction énorme de pouvoir avoir une championne d'Europe après la championne du monde. Je lève la séance en vous disant... que je vous donne rendez-vous également pour le 14 juillet où cette année il y a le feu d'artifice et il y a un pique-nique républicain au parc Jean Rameau.
Et il y a aussi des Olympiades musicales. Pour rebondir sur vos propos, je vous conseille vivement samedi d'aller dans les arènes assister à ce spectacle qui va être extraordinaire.
Merci, bonne soirée.